France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, V13, chronique d'un procès pour l'histoire. Le 8 septembre 2021 à Paris, débute le procès des auteurs des attentats du vendredi 13 novembre 2015. 6 ans après l'horreur du Bataclan, des terrasses du 10e et 11e arrondissement et du Stade de France, voici venue l'heure de la justice. V13, comme on l'appelle, c'est d'abord 132 morts, 413 blessés, plus de 2000 personnes constituées parties civiles, pour un dossier d'instruction de 570 tomes et des centaines de personnes qui défilent à la barre pendant 10 mois pour raconter leur 13 novembre. V13, c'est une scène de 3 heures disséquée sur 149 jours d'audience, à travers les regards croisés de centaines de témoins, des victimes, bien sûr, mais aussi des proches, des policiers sur place, des voisins, des médecins, des enquêteurs, des experts, et même un président de la République. V13, c'est enfin un procès fleuve, inédit, avec, au centre, un étrange accusé principal, Salah Abdeslam. Des commandos qui ont semé la mort ce soir-là, il est le seul survivant. Et puis, et surtout, comment juge-t-on un crime composé lui-même de centaines de crimes? Nos invités aujourd'hui, Charlotte Piret et Sophie Parmentier, les deux journalistes de France Inter qui ont suivi le procès. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Guillaume Malandras, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Juliette Gou.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Paris, matinée du 8 septembre 2021, jour 1. Au bout du pont Neuf, à l'ombre des platanes de l'île de la Cité, un CRS accoudé à une barrière boit un café. Autour de lui, les Tokuyvolki grésillent et des dizaines de collègues s'affairent. Depuis quelques heures, la petite île nichée au milieu de la Seine est devenue une enclave, une forteresse. Tout le périmètre est bouclé et chaque entrée est soigneusement filtrée. Entre deux camions de police, un trentenaire concentré passe un premier cordon de sécurité. Arthur Desnouveau, président de l'association des victimes des horreurs du 13 novembre 2015, Life for Paris, il marche d'un pas rapide jusqu'à l'entrée du palais de justice. À mesure qu'il s'approche du parvis, les silhouettes s'agglutinent autour de lui. Des avocats, par dizaines, mais aussi des journalistes venus du monde entier, et surtout, comme lui, d'innombrables rescapés. Tous en rendez-vous avec leur traumatisme, nés 6 ans plus tôt et qui ne les lâchent pas. 130 morts, 413 blessés. En 3 heures à peine, des milliers de familles brisées et un pays entier sont sous choc. Depuis, tout a été dit, ou presque, sur cette soirée du 13 novembre. Mais une question subsiste, essentielle. Comment juger un tel drame? S'agit-il d'un procès pour les victimes, pour le pays ou pour l'histoire?
France Inter. C'est un long face-à-face qui commence aujourd'hui. Le droit contre la violence aveugle, les victimes face à leur bourreau, 6 ans après cette nuit terrible du 13 novembre 2015. Il faudra 9 mois à la cour d'assises spéciale pour arriver au bout de ce procès titanesque, le plus grand jamais organisé en France, avec ses 20 accusés dont 14 seront présents, ses 1800 parties civiles pour représenter les 130 morts du Bataclan, des terrasses parisiennes et du Stade de France, les 350 de blessés et tous les survivants marqués à jamais.
Ce procès criminel est un procès jamais vu. Un crime dans lequel il y a 2500 victimes, ça n'a jamais existé.
Pour les accueillir, ces victimes directes ou leur entourage et les 300 avocats, une salle d'audience spéciale a été construite dans le palais de justice. Espace de 750 mètres carrés, intégré au chausse-pied à la salle des pas perdus. À côté, une salle de presse a été aménagée. Et une web radio retransmettra les débats à toutes les victimes qui ne pourront pas être sur place. Bref, un procès hors norme. Où ce qui importe, explique le président de la Cour, Jean-Louis Périès, c'est justement le respect de la norme. À 65 ans, ce juge expérimenté aura la lourde responsabilité de mener les débats. Pour les victimes, les enjeux sont vitaux et les appréhensions nombreuses. Comme nous l'expliquent ces 3 rescapés sur France Inter, donc, mais aussi dans le documentaire 13 novembre, l'audience est levée.
Pour moi, être partie prenante à ce procès et témoigner plus particulièrement au procès, c'est une façon de me réapproprier mon histoire et de redevenir sujet.
Il est temps que ce procès arrive. Moi, ce que j'en attends, c'est un droit de réponse. Il y a trois mecs qui arrivent dans le Bataclan, pour parler du Bataclan, mais voilà, qui décident de me tuer. Moi, j'aime bien l'idée du procès où, là, quelque part, les rôles s'inversent. C'est notre droit de réponse, maintenant. Ils nous aiment pas, ok. Eux, leur truc, c'est de nous tuer. Bon, j'ai news pour eux, on les aime pas non plus.
Ce qui est important pour moi, c'est que j'ai eu suffisamment d'éléments, j'ai eu suffisamment de réponses pour moi aller mieux et pouvoir continuer ma vie. C'est aussi ça que j'attends de ce procès.
Vers 10h, sur le parvis, les entrées s'organisent. À droite, les parties civiles, à gauche, les avocats et la presse. Même si le palais de justice date du XIVe siècle, l'entrée a des airs d'aéroport ultramoderne. Il faut franchir un premier cordon de sécurité, montrer son badge à un fonctionnaire, passer devant des chiens de la gendarmerie, glisser sous des portiques à rayons X, puis enfin, descendre la longue galerie qui conduit à la salle des pas perdus. La salle d'audience, construite pour l'occasion, est à la fois gigantesque et accueillante. Des tons neutres, des bancs en bois clair, des lumières douces. Arrivée un peu après tout le monde, Aurélie trouve discrètement une place au fond de la salle. Blonde aux yeux clairs, 40 ans, elle est la compagne de Mathieu, mort au Bataclan. Depuis 6 ans, elle a mis à distance l'événement pour mieux se concentrer sur sa reconstruction personnelle et celle de ses deux enfants. Alors, quand elle s'installe, elle comprend pour la première fois la dimension collective de l'affaire. Entre l'organisation à la fois spectaculaire et solennelle et les 800 parties civiles qui se serrent à ses côtés, elle sent que le drame intime qu'elle vit chaque jour, depuis des années, est une goutte dans une piscine de larmes. Peu après, le rituel judiciaire démarre. Le brouhaha de la salle s'éteint et les magistrats s'installent sur les gradins. Ensuite, les accusés sont appelés. De la petite porte qui s'ouvre sur le côté droit, ils sont 11 à pénétrer dans le box. Avec au centre, celui sur qui tous les yeux se fixent, Salah Abdeslam. Entièrement vêtu de noir, cheveux mi-longs, barbe épaisse et regard sombre, ce Français d'origine marocaine de 32 ans et qui a grandi en Belgique s'affiche enfin publiquement. Seul survivant des commandos, il est l'accusé principal, le visage des attentats. Assise à quelques mètres de lui, Aurélie se crispe. Pour elle, comme pour de nombreuses autres parties civiles, Abdeslam n'est plus seulement un nom et une photo dans un dossier. Il est une personne de chair et de sang, surtout de sang. À 13h17, le président de la Cour, Jean-Louis Périès, ouvre l'audience. Il nous raconte la suite dans cet extrait du documentaire 13 novembre, l'audience est levée.
Je commence l'audience, comme toute audience criminelle, par l'interrogatoire d'identité des accusés. Et ça commence par Salah Abdeslam. Au départ, il dit qu'il reconnaissait que Allah, que la justice divine d'Allah et du prophète. Bon. Et lorsque je lui demande sa profession, c'est là qu'il répond « J'ai cessé toute activité pour devenir un soldat de l'État islamique. » Je reprends mes notes. Moi, j'ai intérimaire.
L'accusé monte alors au créneau. Au micro, Abdeslam dénonce le traitement qu'il estime subir en détention. Le ton est donné. La confrontation entre la justice de la République et l'idéologie islamiste s'annonce directe, frontale.
Dès les premières heures du procès, celui qui est le seul membre présumé des commandos du 13 novembre encore en vie va interpeller le président de la cour d'assises.
Ça fait plus de 6 ans qu'on me traite comme un chien. Après la mort, on sera ressuscité. Vous allez rendre des comptes.
Le président répond :
Vous n'êtes pas devant un tribunal ecclésiastique, c'est un tribunal laïque.
L'attitude de Salah Abdeslam choque l'assistance et émeut les avocats des parties civiles.
Il va dérouler son idéologie. Et il faut faire attention à une chose, je pense, dans ce procès. C'est que la cour d'assises ne doit pas être une tribune pour qu'il puisse exposer ses idées mortifères.
Après la première audition d'Abdeslam, puis celle de ses complices, les logisticiens des attentats en quelque sorte, vient le rappel des faits. Perché sur son estrade, le président Périès s'éclaircit la voix, puis déroule sur un ton neutre, minute par minute, la chronologie des attaques. À chaque fois, il termine par une ponctuation inévitable. Le nombre de morts, 1 au Stade de France, 39 sur les terrasses, 90 au Bataclan. Puis il lit, lentement, les prénoms, noms et âges des victimes. 7 minutes 30 d'une litanie pourtant indispensable, mais une éternité. Un peu avant 20h, l'audience est levée. Pourtant, à la sortie du tribunal, ils sont nombreux à rester sur la petite île de la cité. Ainsi, un groupe traverse la rue et investit les deux palais, célèbres brasseries art déco du quartier. Ici, ça fait des siècles qu'on défait, qu'on refait les audiences. Autour d'un verre, tout le monde relâche la pression de cette première journée. Il faut dire que la plupart des victimes et rescapés de cette tragédie se fréquentent depuis des années. Certains ont même noué des liens d'amitié. Des victimes entre elles, bien sûr, mais aussi des victimes avec des journalistes ou avec des avocats. Alors, ce soir-là, les premiers rires de la journée éclatent. Sur la terrasse et dans la salle, tous sont conscients d'être les acteurs d'un moment historique et qui ne fait que commencer. Un jour de passé, 148 autres à vivre.
Devant les grilles du palais, il y a plusieurs rangées de caméras, de micros, et les directs se font dans toutes les langues.
Paris, 13 septembre 2021, jour 3. Aujourd'hui débute la première grande partie du procès, les auditions des policiers et enquêteurs qui étaient sur les lieux. Entre l'assaut de la BRI, les premières constatations sur les 6 scènes de crime et les dizaines de corps à identifier, le travail accompli est titanesque. Parmi les interventions marquantes, on peut noter celle de cet enquêteur qui a arpenté le Bataclan pendant 2 mois. Charlotte Piret détaille son témoignage au micro de France Inter.
Ce n'est qu'au petit matin, ce 13 novembre, qu'une fois les démineurs passés, qu'il entre dans le Bataclan. C'est assez indescriptible, mais il faut le décrire, soupire-t-il. L'ambiance est saisissante, lugubre, froide. Nous marchons dans du sang coagulé, au milieu de morceaux de dents, d'eau, de téléphones qui sonnent. On enjambe des corps et des corps et des corps. L'enquêteur va passer près de 2 mois, jour après jour, dans l'enceinte du Bataclan. Mais ce n'est qu'après 14 jours qu'est retrouvée la deuxième jambe d'un des kamikazes qui s'est fait exposer sur la scène. Alors, ma hantise, confie l'enquêteur, était d'être passé à côté d'une victime blessée, cachée et qui serait morte sans qu'on la retrouve.
9 jours plus tard, le 22 septembre, au 10e jour du procès, vient une autre déposition importante, celle du commissaire Cardi de la BAC. Entré dans le Bataclan avec son chauffeur 15 minutes après le début de l'attaque, en dehors de toute procédure, il est pour beaucoup l'un des héros de cette soirée. La posture droite, la voix posée. Il évoque tout en retenue une scène d'apocalypse. Les lumières crues sur la fosse, les blessés qui tirent sur leurs pantalons pour être sauvés, l'odeur du sang et de la poudre, l'appel d'un homme à sa femme au cas où il ne reviendrait pas, mais surtout, ces 4 tirs sur le terroriste Sami Amimour, 4 détonations suivies d'une énorme explosion et d'une pluie de confettis, de chair. Dans la salle, ils sont nombreux à se questionner. Sans son intervention qui a forcé les 2 autres assaillants à se replier à l'étage, combien de rescapés assis sur les bancs ne seraient pas là aujourd'hui? Et puis, parmi les courageux qui ont visité l'enfer, il y a ce malaise persistant des erreurs commises. Mais dans ce chaos, comment faire autrement? Des situations, des témoignages qui ont ému Charlotte Piret, qui le confie dans son podcast 13 novembre, 3 voix pour un procès.
Ce qui m'a le plus secoué, c'était pas ces images, mais l'émotion des enquêteurs à la barre, en fait. Voir ces enquêteurs-là qui ont des années d'expérience à la brigade criminelle, 20 ans, 25 ans, ils annonçaient. Sentir la brisure dans la voix quand ils expliquent qu'ils entendaient les téléphones sonner sur les corps des personnes assassinées et qu'ils pouvaient pas décrocher. Sentir le poids de la culpabilité 6 ans après chez un policier qui explique qu'il s'est trompé dans l'identification d'une jeune femme parce qu'elle était tombée sur le sac d'une autre et que, en regardant rapidement la photo d'identité qui se trouvait sur la carte d'identité dans le sac, il l'a attribuée à la personne qui était décédée. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a secouée.
Dans le box, les accusés se taisent. En regardant Salah Abdelsam, on peut se demander s'il a réalisé l'ampleur des massacres, l'horreur absolue de ces crimes. Lui qui adore rappeler à tout le monde le sort des victimes des bombardements en Irak ou en Syrie, éprouve-t-il seulement une forme de regret? Quelle que soit la réponse, le rendez-vous avec la tragédie ne fait que commencer. Car bientôt doit s'ouvrir la phase la plus douloureuse de ce procès, les auditions de 350 parties civiles. Le parquet a prévu 5 semaines, un mois et demi, pendant lequel, au fil des jours, une constellation de traumatismes individuels, de souffrances psychologiques, va converger.
Moi, ce qui m'effraie, en fait, c'est le côté... On sait que c'est insoutenable et pourtant on a envie de se connecter parce que c'est fascinant. Et ça, c'est tellement dangereux. Il y a un mélange d'attirance et de répulsion.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, V13, chronique d'un procès pour l'histoire.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Et le concert a commencé, comme tout le monde, j'ai entendu au bout d'un certain temps les enceintes craquer. J'ai cru à des pétards, j'ai enlevé mes boules Kies et j'ai reconnu des tirs d'armes automatiques. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je me mette au sol.
Puis les tirs ont repris. J'ai le souvenir d'avoir vu des balles qui tombaient à côté de moi. Et je me suis à ce moment-là un peu résignée. Comme beaucoup d'entre nous, j'allais mourir ce soir-là.
J'ai été blessée dans ma chair ce soir-là. Plusieurs éclats de balles, trois impacts, l'épaule gauche, la tempe gauche et un scalp.
Pendant un temps pas très clair, je suis resté allongé. J'ai rampé sur des corps de gens dont je savais pas s'ils étaient morts ou vivants. Et en étant patient, j'ai réussi à atteindre la sortie de secours.
Je me suis retrouvée dans un escalier. J'ai envoyé un premier SMS à mon mari en disant « Fusillade au Bataclan, réfugié, prends bien soin des enfants, je t'aime ».
Palais de justice de Paris, mardi 12 octobre 2021, 23e jour. Voilà 6 jours qu'ils défilent, l'un ou l'une après l'autre. Ils sont déjà une centaine à avoir pris la parole. Parfois 10 minutes, parfois 1 heure. Certains s'appuient sur un bout de papier, dont chaque mot a été pesé pendant des semaines. D'autres se lancent sans filet. Du Stade de France au Bataclan, en passant par les terrasses, tous ont vu la mort en face, aveuglante. Dans la salle, c'est une succession de voix, de postures et de trajectoires, où forcément les émotions varient. Il y a d'abord la tristesse, comme celle de Maya, une tristesse infinie. Présente à la terrasse du Carillon, cette trentenaire, grièvement blessée, plonge la salle dans un silence total, avec un témoignage bouleversant. En plus d'avoir vu son mari et deux de ses proches agoniser, elle ne peut même plus voir le seul ami qui a survécu avec elle à l'attaque, tellement la douleur est grande. Aujourd'hui, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, elle se sent comme condamnée au chagrin et à la solitude. Il y a aussi la colère, notamment celle d'Olivier, survivant lui aussi du Carillon, Il ne peut contenir sa rage à travers un témoignage en forme de diatribe contre les accusés, contre les journalistes et les politiques, contre le monde entier. 5 minutes d'une tempête verbale pour, dit-il, régler ses comptes avec de minables petits démons. Ce 12 octobre, après 6 jours où les vies cabossées s'entrechoquent, il semble naître sur les bancs des partis civils et de la presse un sentiment de saturation. Comment entrer en empathie avec une personne alors qu'on n'est toujours pas remis du témoignage de la précédente? Pourtant, il faut tenir. Ils sont encore 250 à être attendus. 250 victimes présentes sur la scène de crime, où le sang a coulé, plus qu'ailleurs. L'endroit qui symbolise encore, pour beaucoup cette soirée, le Bataclan. Ce soir-là, ils étaient 1500 à assister au concert des Eagles for Death Metal. L'équivalent d'un village enfermé dans une boîte d'à peine 800 mètres carrés, un tombeau.
On est à proximité du bar, contre la barrière, avec mon compagnon de l'époque, et on est dans le champ. On est vraiment directement dans le champ. Donc lui me nie très vite. Au sol, fait la morte. Et on se retrouve au pied d'un des tireurs. Je me prépare psychologiquement. Je me dis qu'on est là à deux. Notre fille, elle a un peu moins de 7 ans. Et je me dis que quand même, il faut qu'il y en ait au moins un ou deux qui sortent de cette salle.
C'est en fait les cris des gens, qui n'étaient pas des cris de joie encore. C'était des cris étranges, un peu. Ça m'a fait penser à une bousculade au premier abord. Et oui, très vite, derrière, des coups secs en fait. Et les terroristes qui crient à la Wakba. Et j'ai commencé à être touchée. J'ai eu une première balle dans la jambe, à l'arrière de la cuisse. Et au sol, j'ai été touchée à nouveau en fait.
Parmi les récits qui résonnent dans la salle d'audience, certains semblent sortis tout droit du ventre de la bête. Il y a ceux qui ont marché sur les corps, ceux qui ont ordonné à des blessés agonisants de se taire, ceux qui ont tenu la main d'un inconnu, ceux qui se sont cachés sur le toit, dans la cave ou dans une loge, ceux qui ont cassé le plafond des toilettes avant de se hisser dans une aération, ceux qui ont pris une balle, ceux qui en ont pris 2, 3, 4 ou 5. Et puis il y a ce groupe de survivants cloîtrés plus de 2 heures dans un couloir avec 2 terroristes avant de subir l'assaut de la BRI. À l'image des 2 survivantes qu'on vient d'entendre, beaucoup ont la voix qui déraille et les yeux mouillés. Mais certains paraissent calmes, presque flegmatiques. C'est le cas de Guillaume A, 21 ans le 13 novembre, 27 aujourd'hui. Son histoire, on la connaît déjà. Il est l'otage sur scène sauvé par le commissaire Cardi et son chauffeur. La voix posée, le ton serein. Il raconte ce moment glaçant où son regard a rencontré celui de Sami Amimour. Il n'a pas dû croiser beaucoup de regards ce soir-là, dit-il. Je me suis dit que c'était peut-être plus difficile de tuer après. Ensuite, il explique sa montée sur scène, suivie de son sauvetage par ces 2 ombres qui bougeaient là, sur le côté. Sur les bancs de la salle d'audience, les observateurs sont sans voix. Malgré l'horreur de la soirée, le témoin semble imperturbable. D'après lui, cette tranquillité, il la doit à ce même commissaire. Cette rencontre a été pour moi fondamentale. Ça m'a beaucoup aidé, dit-il. Il a été non seulement un sauveur pendant l'attentat, mais aussi pour l'après. Malheureusement, tous n'ont pas eu sa chance, si l'on peut dire. Et pour beaucoup, on peut se demander, mais enfin, comment se remettre sur pied quand on a vécu ça?
C'est aussi les cris, en fait, d'aide, de désespoir, en fait, et entendre des gens mourir, en fait. Et ça, c'est... Je pense que c'est pour ça que depuis, j'ai une très forte sensibilité au bruit. Je suis capable d'entendre beaucoup de choses, en fait, le moindre détail. Et c'est très fatigant d'ailleurs maintenant. Mais entendre les gens agoniser en fait, c'était vraiment horrible.
Parmi les parties civiles, il y a celles et ceux qui étaient sur place, mais aussi les proches des victimes, aux premières loges d'un traumatisme plus intime. C'est le cas d'Aurélie, la retardataire du premier jour. Le 21 octobre, 9 jours et 80 témoignages après celui de Guillaume A., c'est à son tour de se présenter à la barre. Elle raconte le dernier soir de sa vie d'avant, la vie d'une jeune maman comblée de 34 ans, enceinte d'un 2e enfant. D'une voix douce, elle évoque son compagnon, Mathieu, parti seul pour le Bataclan après avoir couché leur petit garçon de 3 ans. Avant de partir, il veut coucher Gary, raconte-elle. Je l'entends lui dire qu'il l'aime. Je l'entends lui dire à demain. Quelques dizaines de minutes plus tard, cet agrégé de géographie, chaleureux et humble, gisait dans la fosse du Bataclan, seul, une balle dans la tête. Sans flancher, Aurélie raconte cette première nuit, l'attente de la confirmation de sa mort, puis le brouillard des jours qui ont suivi. Les 5 minutes à l'Institut médico-légal pour voir le corps, mais surtout l'information à donner à un enfant de 3 ans, avec tout ce qu'elle implique. Alors je ne mangerai plus de kiwi avec lui le matin. Il ne mettra plus sur ses épaules quand je serai fatigué de marcher. Plus de foot le samedi après-midi non plus. Non, Gary, tout ça c'est fini, dit-elle. Et puis il y a les jours d'après. Tous ces détails d'un quotidien pulvérisé et à rebâtir. Comme ces 3 assiettes qu'elle pose un soir sur la table, mais aussi les yaourts préférés qui périment dans le frigo, la brosse à dents qu'on n'ose pas jeter, ou encore la housse de couette de la dernière nuit conjugale qu'il faut bien se résoudre à laver. Autant d'épreuves qu'elle vit sans desserrer la main de son fils, ce grand petit bonhomme de 3 ans. Pour décrire leur relation, la jeune maman lance cette phrase. Dès le 14 novembre, il devient le berger du troupeau de mes peines. Enfin, il y a cette nuit de mars 2016 et la naissance de sa petite Thelma. Une nuit qu'elle raconte ici, au micro de Brut, un média en ligne.
Elle est donc née 4 mois après la mort de son père. Et la première fois que je lui parle de cette histoire, c'est la nuit de sa naissance. Elle est née à 1h du matin. On m'a ramenée dans ma chambre, j'ai une image très précise de ce moment-là. Il y a une petite lumière sur ma table de nuit et j'ai cet enfant dans mes bras. Et je crois que je lui ai parlé vraiment très longtemps. Et c'est important de parler aux bébés aussi, pas seulement parce qu'on imagine qu'ils peuvent comprendre, mais aussi parce que ça change quelque chose sur notre comportement à nous, de l'avoir dit déjà.
Quand Aurélie retourne sur le banc, ils sont nombreux à ne pas pouvoir retenir leurs larmes. Comme elle, ils sont 50aine de parties civiles à venir ici chaque matin et à rentrer chaque soir, le cœur un peu plus lourd et l'âme, peut-être, un peu plus légère. À les observer, on peut se demander, mais comment font-ils pour paraître aussi vivants, aussi rationnels ? 6 ans qu'ils vivent entre les fantômes, les rapports d'autopsie et les cauchemars de cette nuit d'automne. Face à la réalité, la réponse la plus appropriée est parfois le désespoir, le repli total, ou même la folie. Combien sont-ils là, assis dans la salle, à avoir passé des nuits blanches, à réfléchir aux moyens le plus simple d'en finir ? Certains absents l'ont fait, comme ce jeune scientifique prometteur et discret, Guillaume V. 5 jours après Aurélie, le 26 octobre, ils sont 3 à s'avancer à la barre pour parler de lui. Son 13 novembre, Guillaume ne l'a raconté qu'une fois à son père, quelques heures après les faits, avant de se fermer à jamais. Lui, le cartésien réfléchi, a développé ce qu'on appelle la culpabilité du survivant, un syndrome post-traumatique qui s'est mis à régir toute sa vie, jusqu'au point de non-retour. C'était le 19 novembre 2017. Ce jour-là, il devenait la 131e victime des attentats. Ce soir du 26 octobre, après le témoignage des proches de Guillaume V, ils sont nombreux à ne pas vouloir tout de suite rentrer chez eux, non. Partie civile, avocats, journalistes, toutes celles et ceux qui ont besoin d'un peu de réconfort, se donnent rendez-vous une fois de plus à la brasserie des Deux Palais. Certains dissertent à la banalité du mal présente dans le box, expression inventée par les philosophes Hannah Arendt pour évoquer le nazi Adolf Eichmann. On oppose la banalité du bien, cette vie bien remplie qu'ils étaient si nombreux à mener. La banalité du bien, c'est la passion de Guillaume V pour ses études et son exutoire dans le rock, mais aussi la chaleur du cocon d'Aurélie et de Mathieu, ou encore ses 3 copines qui se réunissent au carillon pour en consoler une 4e en pleine rupture amoureuse. Bref, à travers la masse de témoignages, la vie d'avant n'est pas seulement synonyme de bonheur perdu, elle est aussi, pour aujourd'hui, une encre qu'il est sain d'évoquer. Un rappel essentiel de tout ce que la vie peut offrir de beau. Sur un écran dressé au fond de la salle, l'organigramme est projeté, complexe, froid. On y voit les rôles de chacun, de la Syrie à la France, en passant par la Belgique. Une cellule terroriste, certes, mais aussi une bande de copains d'enfance, pour la plupart. Oui, petits fumeurs de shit devenus djihadistes qui ont tous grandi dans un pâté de maison de Molenbeek. au cœur de cette logistique, il y a bien évidemment Salah Abdeslam. Les enquêteurs décortiquent son rôle avant et pendant les attaques, les locations de voitures, puis le transport des kamikazes au Stade de France. Cependant, au milieu de toutes ces certitudes, une question reste à trancher, à la fois technique et fondamentale, celle de son gilet explosif. Car il a été établi qu'après le Stade de France, l'homme a erré dans le quartier de Barbès avant de jeter le dispositif dans une poubelle de Montrouge. Or, le 18e arrondissement est précisément nommé dans la revendication de l'État islamique du 14 novembre. Alors, a-t-il renoncé ? Ou bien le gilet bourré d'explosifs était-il défectueux ? Curieux, le président Périès se tourne vers l'accusé principal. Nous sommes alors le 30 mars 2022, jour 102 du procès. Salah Abdeslam s'avance vers le micro avant de prononcer ces 9 mots. « Je souhaite faire usage de mon droit au silence. » Consternation dans la salle. Sur les bancs, les parties civiles fulminent. Pourquoi choisit-il de se taire ? Après plusieurs journées de silence, l'une des avocates des parties civiles, Claire Jostrand-Schmidt, se lève et commence son interrogatoire. Nous sommes le 13 avril 2022, au 111e jour du procès. Grâce au sens de la diplomatie de l'avocate, l'accusé se met à parler. « Oui, il a renoncé à activer son gilet au dernier moment, dit-il. » Oh, pas par peur, mais par compassion. Ah bon ? Et quand il évoque sa mère et son frère, Brahim, lui aussi membre du commando, il se laisse envahir par l'émotion. Écho sur France Inter.
Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Jérôme.
Aujourd'hui, Salah Abdeslam est allé jusqu'à présenter ses excuses.
Oui, et il les a formulées, la gorge serrée, les yeux humides. Ce sont les premières larmes de Salah Abdeslam au bout de 7 mois de procès. Elles ont jailli doucement alors que son avocate lui posait une dernière question. Il a donc pleuré un peu après 15h30 en parlant d'abord de sa mère qui souffre d'avoir perdu son autre fils, Brahim Abdeslam, kamikaze du 13 novembre, le grand frère que Salah Abdeslam n'a jamais condamné. Je voudrais dire aussi que cette histoire du 13 novembre s'est écrite avec le sang des victimes. C'est leur histoire et moi j'en fais partie. Je suis lié à eux, ils sont liés à moi, a lancé Salah Abdeslam, le visage rougissant au-dessus de sa barbe épaisse.
Silence dans la salle. Parmi les parties civiles, on s'interroge tout de même. Pleure-t-il pour les victimes ou pleure-t-il pour lui et sa famille ? Dehors, sur les bords de Seine, le printemps revient. Au tribunal, les jours d'audience défilent. Laborieux parfois, et pour beaucoup, la lassitude s'installe. Néanmoins, une question prend peu à peu toute sa place, celle du verdict. Mais d'abord, il faut entendre les plaidoiries. Face à la cour, les 300 avocats de parties civiles défilent. Tous évoquent le rôle de logisticien d'Abdeslam. Pour eux, cette place centrale dans le dispositif le rend coupable au même titre que ceux qui ont tué, et ce, quels que soient ses regrets ou les doutes autour de son gilet explosif. Du côté des avocats de la défense, on insiste sur l'absence d'action meurtrière directe de l'accusé, prouvée par son renoncement, mais aussi sur son émotion sincère. Cependant, à l'heure des réquisitions, le 8 juin, il semble que la cour ne soit pas convaincue par cet argument. La perpétuité incompressible est demandée contre Salah Abdeslam. 3 semaines plus tard, le 29 juin, vient le point final, le verdict. À 20h10, dans un silence absolu, le président Périès prend la parole.
Pour moi, ça... Là, on rentre dans le dernier rôle du président. Il a ses notes, il lit, il donne le verdict. Je tiens à regarder les accusés à ce moment-là, lorsque je donne lecture donc, de la peine à laquelle ils sont condamnés.
3 jours de délibéré, donc, la décision tard ce soir sur le sort de Salah Abdeslam et ses co-accusés. Perpétuité incompressible, donc, pour le premier. 10 mois d'audience, un procès pour l'histoire et une immense attente.
C'est une décision rarissime dans l'histoire judiciaire. La réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté incompressible. Il s'agit là de la peine la plus lourde du code pénal, prononcée seulement 4 fois depuis son instauration en 1994.
C'est ainsi que la justice referme le dossier V13. Avec la condamnation de Salah Abdeslam à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, la cour a prononcé un verdict à la hauteur des milliers de calvaires vécus. Mais le temps des vivants, lui, continue. Alors que la salle d'audience se vide et que les journalistes rangent leurs caméras, il se retrouve une dernière fois sur le parvis. Aurélie, Arthur, Olivier, Guillaume, Maya. Ils viennent de vivre la dernière étape d'une tragédie collective qui ne leur appartient déjà plus vraiment. Sous la lune d'une nuit d'été, les émotions s'entrechoquent. Le soulagement d'avoir été entendu, la satisfaction face aux peines prononcées, la joie de la vie qui reprend, mais aussi, parfois, la mélancolie. Alors, que devient-on quand la plaie collective se referme ? Heureusement, les liens tissés entre eux depuis ce soir de novembre semblent indestructibles. Car même au milieu de l'horreur, on ne peut jamais empêcher les gens de s'aimer. V13, ce sont des amitiés éternelles, des couples formés et même des enfants qui sont nés. La vie d'avant et celle d'après, cette banalité du bien, attaquée, meurtrie, mais debout.
Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie t'a choisi. Oh, la vie t'a choisi. À l'origine, une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée. Une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie. Tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans. Et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tend la main, la vie.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Nous en parlons avec nos deux invités, Charlotte Piret et Sophie Parmentier, deux journalistes de France Inter, mais sûr que vous connaissez. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez toutes les deux suivi le procès au quotidien. Charlotte, vous êtes également l'autrice du podcast 13 novembre, 3 voix pour un procès. C'est un échange entre vous et Arthur Desnouveaux, qui était au Bataclan, mais aussi un avocat de la Défense, Xavier Nogueras, podcast dont nous avons largement entendu des extraits au cours de ce récit. Et vous, Sophie Parmentier, vous êtes l'autrice de 13 novembre, L'humanité au bout du procès, pour le magazine Interception. Quand on est journaliste, évidemment, on n'en est pas moins humain. J'imagine que la couverture de ce procès a été un moment fort pour vous, émouvant. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Sophie ?
Évidemment que ça a été un moment fort dans une vie de journaliste, mais au-delà du métier, humainement, tout simplement. Oui. D'abord, journalistiquement, c'est la première fois que j'ai couvert un événement dans le même lieu, aussi longtemps. Et cette tragédie était tellement immense que, bien sûr, on est ébranlé aussi humainement. Mais personnellement, j'ai toujours été sur les bancs de la presse, en tant qu'observatrice, à tenter de raconter du mieux possible ce que j'ai vu. Ce qui ne veut pas dire qu'on était insensible. Je pense que, comme tous ceux qui étaient sur les bancs, également les avocats, les magistrats, eh bien, on a vu des larmes à se produire. procès et réentendre là les extraits qu'on vient d'entendre dans cette émission, bien sûr que ça touche.
Charlotte ?
Oui, effectivement, là, je dois vous dire que l'émission me laisse une grande émotion de replonger dans ce qui fut au-delà d'un procès, une aventure collective en fait. C'est quelque chose qui a été traversé par évidemment les victimes, mais tous les acteurs de ce procès pendant 10 mois. Et c'était long, 10 mois, c'était aussi fort parfois. Voilà, c'est un moment dans l'histoire évidemment professionnelle, parce que comme le disait Sophie, on était professionnels avant tout, mais dans l'histoire d'une vie aussi.
Évidemment. Selon vous alors, Charlotte, quel était l'enjeu principal du procès pour les victimes à travers ce que vous avez pu entendre de leur déclaration ?
Je crois qu'il y avait, c'était un enjeu triple pour les victimes. Il y avait évidemment le fait de témoigner, de venir, c'est Arthur Desnouveaux qui le disait comme ça, de venir déposer quelque chose à la barre, c'est l'expression consacrée, mais ça dit aussi le fait qu'on dépose une partie de son trauma et qu'on laisse quelqu'un d'autre, un tiers, la justice, s'en emparer à sa place pour faire œuvre de justice. Ça, c'est probablement l'enjeu principal et pour la majorité des victimes. Après, il y avait aussi certaines victimes, et on l'a entendu aussi, qui venaient chercher des réponses précises sur le déroulé, sur le rôle de chacun des acteurs, sur ce qui s'est passé dans les préparatifs en Syrie ou en Belgique, etc. Elles n'ont pas toujours eu ces réponses. Certaines, oui, pas toujours, mais c'était un des enjeux. Et puis, je crois qu'il y avait quelque chose, c'était aussi la première confrontation directe avec les accusés. Évidemment, Salah Abdeslam, mais tous les autres, ils étaient 14 présents à ce procès. Certaines dans la volonté de voir prononcer une peine très lourde, mais au-delà et au fil de ces 10 mois, parce que ça a duré très longtemps, et ça, par exemple, quelqu'un comme Aurélie Sylvestre, dont on a parlé, le dit très bien, elle dit, on a aussi vu des gens qu'on a vus au jour les jours être fatigués, être en colère, être émus, on a découvert aussi des êtres humains. Et aujourd'hui, à une époque où on parle beaucoup aussi de justice restaurative, il y a aussi ça qui s'est noué pendant ce procès, pas pour tout le monde, mais pour certains, parce qu'il y a eu aussi une rencontre en fait qui s'est faite avec ces accusés.
Sophie, il y a eu aussi les victimes et rescapés qui n'ont pas témoigné, qui ne sont pas venus. Vous les avez rencontrés. Qu'est-ce que vous avez compris de leur motivation à ne pas venir ?
Bah, par exemple, je pense à Pierre Cabon, qui est un jeune homme qui a été grièvement blessé au Bataclan. Il s'est retrouvé paraplégique. Et lui, en fait, assez vite, il explique qu'il a tourné la page. Il n'a pas eu besoin de venir au procès. Il a choisi de voyager, de se lancer des défis. Et par exemple, je l'ai rencontré au moment du procès. Il était en train de préparer l'ascension du Kilimandjaro avec son fauteuil roulant, ce qui paraît assez fou. Donc lui, ça ne veut pas dire qu'il était totalement déconnecté, parce qu'il était quand même attaché à la web radio. Il y a aussi toutes ces victimes qui ne sont pas venues au procès. Il y a celles qui n'ont pas pu venir aussi parce qu'elles n'ont pas pu lâcher leur boulot, parce que je pense pour certaines c'était aussi trop difficile d'être face aux accusés, notamment Salah Abdeslam qui pouvait être très effrayant. Mmh. Et il y avait quand même cette connexion pour beaucoup de victimes à travers la web radio. Et par exemple, ça a été le cas de Pierre Cabon, mais qui ne voulait pas être envahi par ce procès et lui estimait que voilà, cette page était tournée et sa vie devait continuer.
Charlotte Piret, parlons maintenant du président de la Cour, Jean-Louis Périès. On l'imagine facilement comme une force tranquille, une encre de normalité au milieu des tragédies individuelles. Quelle impression il vous a donné et quel est votre regard sur la façon dont il a mené les débats ?
Je me souviens que quand Philippe Dupeyron, qui est le père de Thomas Dupeyron, décédé au Bataclan et qui est le président d'une des deux associations de victimes, 13-11-15, a fait sa déposition, il a évoqué l'accent de Jean-Louis Périès, il a un accent du Sud,
oui,
en disant que c'était un rayon de soleil qui faisait cruellement défaut dans cette salle. Il y avait ça aussi. C'est parfois par petites touches voilà, qu'on fait cette humanité-là. Et puis Jean-Louis Périès, pour revenir à cette question de l'humanité, et des liens qui se sont créés pendant ce procès. Il vient de sortir un livre dans lequel, en préambule, il explique comment, oui, il a des liens aujourd'hui avec certaines victimes, que ça ne se fait pas, mais que là, ça s'est fait.
Alors, parlons d'Abdeslam, maintenant, avec vous, Sophie Parentier. Il est celui vers qui tous les regards se tournent, celui dont chaque déclaration est scrutée, mais qui est-il au fond ?
Alors, je crois qu'il a montré plusieurs visages au cours de ces 10 mois d'audience. Il arrive, on l'a entendu, avec sa grosse barbe noire, tout de noir vêtu, la couleur de l'État islamique, qui se revendique comme un combattant. Il arrive avec cette colère et puis il est très écouté aussi parce qu'il n'a pas parlé pendant 5 ans durant toute l'instruction. Donc déjà, au début du procès, il faut se rappeler qu'on se demande s'il va parler ou continuer à garder le silence. Il parle, il a cette colère, il dit on est traités comme des chiens. Et puis ensuite, il demande régulièrement la parole. Alors, Jean-Louis Perret Mériès, quand les victimes défilent à la barre, à un moment, il y a une victime musulmane qui arrive à la barre, et là, Salah Abdeslam dit « On visait les mécréants, c'est un accident si votre sœur a été tuée », ce qui fait réagir beaucoup d'autres victimes. Puis vient, je me souviens, le moment de son interrogatoire de personnalité, où là, il se présente presque avec une voix d'enfant sage, en fait, c'est un peu choquant, mais il raconte son enfance, et il dit « C'était très simple, j'étais calme et gentil ». Et puis, viennent les interrogatoires sur les faits. En février, il dit « J'ai tué personne, même pas une égratignure, aucune égratignure, j'ai blessé personne ». Et puis arrive, on vous en avait parlé, ce fameux 30 mars, où là, on l'attend sur la nuit des attentats, et là, il se lève et il choisit de dire je garde le silence, ce qui est donc consternant, c'est terrible en fait pour les victimes qui attendent sa parole. Alors ensuite il y a cet avocat de Claire Josserand-Schmidt qui va réussir à tirer un fil,
oui.
Il va réussir à dire quelques mots notamment sur son gilet explosif, et puis ensuite dans les derniers interrogatoires eh bien, il va y avoir les larmes de Salah Abdeslam qui va... apparaître avec une certaine émotion, il va dire que il s'excuse, il va présenter ses condoléances aux victimes, il va dire qu'il voudrait qu'on le pardonne en fait, mais je trouve qu'il montre plusieurs visages et qu'il a aussi des déclarations qui sont un peu alambiquées parfois, parfois à double sens. Et par exemple, dans les derniers jours où il a la parole en fait, il dit qu'il est content d'avoir la parole et qu'il veut en profiter. Il a par exemple cette formule, il y a une avocate, Aurélie Cerceau, qui lui demande ce qu'il a ressenti en voyant les images du Bataclan. Et là, Abdeslam dit qu'il a observé que les victimes avaient été grandies, que c'était des épreuves qui leur avaient donné de la force. Et je me rappelle de ces mots, il a dit que c'était des qualités qu'on n'achète pas au supermarché. Là, je me souviens dans la salle d'un moment de malaise très grand. Et donc, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'ambivalence comme ça, qu'il a beaucoup évolué tout au long du procès. Mais vous dire, au bout du compte, qui il est, c'est très difficile.
France Inter. Affaire sensible.
Charlotte Piret, que peut-on dire des autres accusés ? Alors qu'ils sont aussi des logisticiens, mais peut-être de deuxième rideau, qui sont-ils ?
En fait, ils sont très nombreux, hein. Ils sont 14 présents. Ouais. Il y a trois accusés, par exemple, qui comparaissent libres parce qu'ils ont été des petites mains, essentiellement pour des rôles de chauffeur de Salah Abdeslam, notamment. Et il y en a d'autres, évidemment, qui sont incarcérés. Il y en a d'autres qui sont très lourdement impliqués, hein. Par exemple, Mohamed Abrini, il vient avec ce que lui-même a appelé le convoi de la mort la veille des attentats avec tous les terroristes à Paris. Il va rentrer à Bruxelles juste quelques heures avant les attentats et il va être impliqué dans les attentats du 22 mars à l'aéroport de Zaventem à Bruxelles. Lui, il est aux côtés de Salah Abdeslam, il est également très lourdement condamné. Il y a aussi d'autres profils comme des étrangers, Sofiane Ayari, qui est tunisien, ou Osama Krayem, qui est suédois, et qui ont rejoint l'État islamique, qui ont fait partie des cadres de l'État islamique, principalement Osama Krayem, parce qu'il a été depuis condamné en Suède pour avoir participé à l'exécution du pilote jordanien qui a été brûlé vif dans une cage par Daesh. Donc on a aussi des gros morceaux, si je peux me permettre cette expression, de l'État islamique. C'est très varié en fait, c'est souvent le cas dans ces procès d'attentats, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'accusés avec des niveaux d'implication qui sont très différents. Voilà, un autre a été condamné non pas pour terrorisme mais pour des faits de droit commun, pour avoir fourni des faux papiers. Voilà, c'est très différent, c'est autant de personnalités et autant de niveaux d'implication évidemment.
Sophie Parmentier, un mot, c'est important, sur des victimes non pas oubliées mais dont on parle moins, parmi les victimes du 13 novembre, celles du Stade de France, mais aussi l'assaut de Saint-Denis du 18 novembre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur leur témoignage ?
Alors, c'est vrai que le Stade de France, c'est un lieu d'attentat, une scène de crime dont on parle moins, et en fait, c'est une souffrance supplémentaire pour les victimes qui ont fait face aux kamikazes et qui ont eu peur de mourir et qui ont été marquées. On en a vu défiler beaucoup à la barre. Je voudrais dire autre chose de victimes. Moi, j'étais frappée à ce procès de toutes ces victimes qu'on a vues défiler et dont on n'avait jamais parlé depuis 2015. Tous ces gens qui ont eu la vie sauve, qui ont réussi à s'enfuir du Bataclan, par exemple, dans les toutes premières minutes, qui n'avaient aucune blessure et qu'on a négligé, je mets des guillemets, en fait, pendant longtemps. En tout cas, on ne parlait pas de ces gens-là dans l'enquête. Et en fait, voir l'impact au procès, voir cette jeunesse en fait qui a perdu son insouciance, ces jeunes gens de 18, 19 ans qui ont dû arrêter leurs études parce que et avoir des traumatismes dramatiques parce que en fait, ils ont été marqués à vie. Je trouve que ça a montré l'ampleur, en fait, de cet attentat. Et c'est des victimes dont on a très peu parlé. On parlait beaucoup de celles qui avaient été grièvement touchées ou qui avaient des histoires un peu extraordinaires. Et je pense que toutes ces petites victimes font partie des victimes oubliées. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui avaient... donc, on parle beaucoup de la culpabilité du survivant, mais qui ne se sentaient pas légitimes, en fait, de dire ce témoignage à l'audience. Et par exemple, Jean-Louis Périès, je me souviens qu'il avait dit à une victime qui ne se sentait pas légitime comme ça, qui avait ses blessures invisibles, bah, si vous avez sauvé des vies, c'était une jeune fille, je me souviens, qui s'appelait Clarisse, elle avait défoncé à coups de poing le faux plafond du Bataclan, elle avait permis à des gens de se cacher, en fait. Et quand même, elle se disait, est-ce que je suis vraiment victime? Oui, en fait, lui avait dit Jean-Louis Périès.
Ça vaut aussi pour les personnes qui se sont retrouvées sur les terrasses des cafés, parce que, évidemment, il y a le Bataclan, c'est un vase clos, massacre dans un vase clos, ça nous touche, évidemment, mais l'horreur des terrasses aussi.
Oui, l'horreur des terrasses, et puis tous les traumatisés, je pense, qui n'étaient pas directement sur les terrasses, qui sont arrivés, qui ont vu, oui. qui n'ont pas compris tout de suite. Il y a toutes ces victimes aussi qui ont raconté qu'elles s'en voulaient de n'avoir rien fait, en fait. Parfois de s'être enfuies, de s'être sauvées, d'avoir sauvé leur peau, et de se dire, mais en fait, moi, j'ai pas aidé, j'aurais voulu faire autre chose, en fait. Et elles s'en veulent d'être en vie et de n'avoir pas fait plus. Et c'est assez terrible, en fait. Et c'est vrai qu'à ce procès, dans cette salle d'audience immense, où on a entendu tous ces témoignages. Je trouve que moi qui couvrais des affaires de terrorisme depuis longtemps, comme Charlotte, en fait, on a vu l'impact, en fait, géant de ces attentats du 13 novembre 2015, comme aucun autre attentat, en fait.
Bien sûr. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, Charlotte Piré, mais il y a aussi de longues périodes où il ne se passait pas grand-chose, ce qui est le cas dans les très longs procès comme ça, comme celui de Barbie, qui avait été le plus grand, long procès en France. Il y a eu ce qu'on peut appeler un ventre mou.
Oui, oui, bien sûr, il y a un ventre mou parce que les affaires de terrorisme en particulier, c'est aussi beaucoup des affaires où il est question de téléphonie, de géolocalisation, vous voyez, des choses qui sont un peu arides. Et on voit ça d'ailleurs dans tous les procès terroristes, celui-là étant d'une telle ampleur, c'est cette phase-là, elle a duré longtemps aussi. Elle est nécessaire malgré tout, alors effectivement c'est un peu plus difficile à raconter, notamment à l'antenne de France Inter, puisqu'on était là tous les jours, Sophie et moi, pour l'expliquer. Mais c'est nécessaire parce que ça dit aussi le fonctionnement de notre justice qui va regarder dans chaque détail et va surtout, et c'est en ça qu'on peut dire que ça a été la force de ce procès, c'est la réponse de l'état de droit, c'est-à-dire qu'on a condamné chacun des accusés à une peine individualisée en fonction de ce qui lui était reproché à lui et pas l'horreur de ce que nous, on avait pu constater, nous, et subi, nous, quand je dis nous, c'est évidemment la société française au sens large. Et ça, donc ce ventre mou, certes, il est un peu laborieux, on peut le dire, et ça a existé avec des enquêteurs belges, par exemple, dont on se souvient qui étaient assez agaçants parce qu'ils manquait beaucoup de réponses à des questions que beaucoup se posaient, mais voilà, ça a été aussi des moments importants de ce procès.
Ça fait parenté au procès de Nuremberg, on a montré les images des camps de concentration pour mettre les accusés face à la réalité dont ils étaient responsables. On a fait la même chose, on a montré les images des sons aussi du Bataclan. Ça a été un débat, ça, ou c'était naturel?
Alors, ça a été un débat. Il y a beaucoup de précautions qui ont été prises. Alors, il faut dire que ce procès des attentats du 13 novembre 2015 est intervenu quelques mois après le procès des attentats de janvier 2015, où il y avait eu notamment les images de la tuerie dans Charlie Hebdo, qui avait été montrée, qui avait beaucoup choqué. C'était vraiment des scènes assez effroyables, ces flaques de sang. Et donc, en fait, je pense que le président Périès a pris beaucoup de précautions à ce procès des attentats du 13 novembre. Donc, au départ, on n'a pas vu d'image. Au départ, on a entendu des sons, mais 22 secondes. C'était vraiment très, très bref. Et puis, il y a des victimes, comme Arthur Desnouveaux, qui, à la barre, ont demandé, en fait, qu'on montre plus, justement, pour voir ce qu'on jugeait. Et donc, finalement, alors qu'au tout début, les enquêteurs avaient montré le Bataclan avec des victimes représentées par des points, et bien, finalement, on a vu des images assez lointaines, assez floues, mais quand même, on voyait clairement les traces de sang, les corps enchevêtrés, tout ce qui a été décrit et qui était monstrueux. Et puis on a entendu ces bruits, et pour moi je pense que c'était le plus frappant, les tirs,
oui,
les cris, les gémissements, la voix des terroristes, ouais. Et ça, voilà, c'était terrible de l'entendre dans cette grande salle d'audience où ça résonnait très fort.
La force du son, effectivement. Charlotte Piret, Sophie Parmentier, merci infiniment et bravo pour la qualité de votre travail tout au long de ce procès, malgré les ventres mous, comme on disait. Merci encore.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le procès des attentats du 13 novembre 2015. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Maxime Goudard.